Bienvenue à Yadineuf, le balado où on explore comment l'intelligence artificielle transforme notre quotidien. Dans cet épisode, on s'attaque à une question essentielle. Comment l'IA peut-elle devenir un levier stratégique au service du bien commun? Pour en discuter, nous recevons deux invités de marque, Stéphane Boyer, maire de Laval, qui nous partage une vision concrète de l'IA comme moteur d'agilité dans les services municipaux pour améliorer l'efficacité et surtout la qualité de vie des gens. Et Anne Nguyen du Conseil de l'innovation du Québec qui nous offre une perspective provinciale sur les grands chantiers à mettre en place pour bâtir un Québec innovant, souverain et inclusif dans son adoption de l'IA. Avec eux, on parle de transformation des processus, d'équité, d'acceptabilité sociale et de souveraineté numérique. Et surtout, on explore comment l'IA peut être développée avec et pour la population en dissipant les craintes et en favorisant la confiance. Un échange riche, ancré dans le réel, entre la vision locale et stratégie nationale. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur IA du Neuf, le podcast où on découvre comment l'intelligence artificielle façonne nos vies et nos industries. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle dans le secteur public. Je suis Laetitia Constantin, développeuse web et IA chez Explorer et je suis accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur. Salut Rémi.
Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on explore la place de l'IA dans la société, en industrie, et puis qu'est-ce que cette technologie permet de faire et d'accomplir. C'est un sujet super excitant aujourd'hui parce qu'on a deux acteurs importants au niveau du gouvernement qui vont nous expliquer comment ils ont pris cet outil-là pour l'amener plus loin dans la société ou dans le gouvernement lui-même. Je suis heureux d'accueillir Stéphane Boyer, maire de Laval, et Anne Nguyen du Conseil de l'innovation du Québec. D'ailleurs, Anne, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, qui tu es, puis qu'est-ce qui t'a amené vers le Conseil?
D'abord, merci beaucoup de me recevoir. Je trouve tout le temps que c'est un honneur de participer à ces différentes tables. Puis le sujet aujourd'hui, les gens me disent souvent, on est tanné d'entendre parler de l'intelligence artificielle. Puis je dis, malheureusement, ça fait partie de mon titre, tu sais, directrice responsable de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. Mais tu sais, moi, je dis avant tout, moi, je suis une maman. Je suis une maman de deux cocos, une ado et un petit coco de 5 ans. Puis tout ce que je fais, c'est de préparer le futur. Puis j'avais comme vraiment l'impression que à travers mon parcours, moi, j'ai commencé comme journaliste scientifique. Hein. Puis j'avais aucune idée ce que j'allais faire de journaliste scientifique. J'ai écrit pour les débrouillards. Et tout d'un coup, ma vie s'est transformée un peu. On a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Et de façon naturelle, j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux pour faire de la transformation numérique. Puis quand tu fais de la transformation numérique, là, tu plonges dans le monde de la donnée. Puis quand tu as un esprit un peu geek comme moi, bien, tu veux encore comprendre plus où la donnée te mène. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en intelligence artificielle. Donc, tu sais, de passer de chef de la donnée au CHUM jusqu'à faire le saut au Conseil d'innovation en intelligence artificielle. Je trouvais que c'était un bon parcours puis un bon filon pour dire « Hey, je suis en train de contribuer à toute la génération future parce qu'on veut léguer quelque chose de beau avec l'IA. »
Incroyable. Puis là, tu as parlé du fait que tu es une maman.
Oui.
Ton parcours professionnel, est-ce qu'il y a, un hobby ou un élément qui te distingue, disons, dans ta personnalité ou dans ton quotidien?
Dans ma personnalité, je pense que j'ai tout le temps été et agi avec candeur. Tu sais, j'ai dans le sens où j'ai jamais su où la vie allait m'amener, mais à chaque fois qu'il y avait un filon, je me suis dit, hey, pourquoi pas. Ça, c'est la même chose pourquoi j'ai commencé à m'occuper de la transformation numérique à l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est que j'avais étudié à ce moment-là en gestion de projet, en développement organisationnel, et je voulais accompagner ce qu'on appelait à ce moment-là la transformation numérique. Puis on accompagnait les équipes TI. Donc, moi, j'étais en ressources humaines et j'accompagnais les équipes TI qui faisaient la transformation numérique jusqu'au jour où je regardais les équipes TI puis je me suis dit, ils ont tellement pas l'air à avoir du plaisir à gérer cette transformation numérique parce que c'est pas pour ça qu'ils ont étudié en technologie d'information. Et tout d'un coup, dans un élan un peu de candeur, spontanéité, j'ai dit, il me semble que ça devrait être quelqu'un aux ressources humaines qui gère l'hôpital numérique parce qu'il faut comprendre le volet humain. Et tout d'un coup, mon patron de l'époque, il me regarde, il dit « OK, fais-le ». Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me plonger en transformation numérique. Puis un peu de la même façon, quand j'ai découvert la donnée, mais je me suis dit « Hey, il faudrait que j'apprenne un peu plus en données ». Puis j'avais parlé avec quelqu'un qui étudiait en données, puis il dit « Hey, il y a peut-être un programme à Boston qui serait intéressant pour toi. Je dis, ah, pourquoi pas? Donc, j'ai fait mon application entre deux brassées de lavage. J'ai été acceptée à Boston. Puis c'est comme ça que j'ai étudié en données, puis en intelligence artificielle. Wow. Donc, je pense que mon volet distinctif, c'est plus être un peu spontané, puis saisir, de ne pas y aller de façon linéaire, mais plus saisir les opportunités pour m'impliquer, puis atteindre la mission que j'ai dans la vie, c'est-à-dire léguer un monde meilleur que ce qu'on a maintenant pour nos enfants.
C'est formidable. Ça va être difficile de passer après ça, Stéphane.
Ben, en fait, je trouve qu'on a beaucoup de points communs. Ou est-ce que moi aussi, j'ai toujours été motivé beaucoup par régler des enjeux, changer le monde, puis je me suis laissé guider un peu au fil des opportunités puis de ce que je rencontrais dans mon travail. Je pensais pas faire de politique avant, mais je pense que moi, de mon côté, comme jeune étudiant, c'est ça, je voulais changer le monde. Puis ce qui m'intéressait beaucoup quand j'étais aux études, c'était plus le développement international. C'est que je passais du temps à l'étranger. Je pensais travailler un jour pour l'ONU ou une grande organisation d'ensemble lucratif à travailler sur des enjeux de santé ou d'éducation ou développement économique. Puis de fil en aiguille, j'en suis venu à réaliser à quel point les décisions qu'un gouvernement prend sont importantes dans nos vies. Puis si on a la qualité de vie qu'on a au Canada, comparativement à d'autres pays, c'est parce qu'au fil des années, il y a plein de décisions différentes qui sont prises puis qui nous amènent là où on est aujourd'hui. Donc, je me suis... lentement, j'ai changé un peu mon focus de l'aide internationale vers plus qu'est-ce qui se passe chez moi au Canada, au Québec, à Laval, au niveau du gouvernement puis de la politique. Et ma ville avait été marquée par des grands scandales de corruption aussi dans les années 2010, 11, 12, 13. Suite à ça, je me suis dit, OK, je vais m'impliquer dans ma ville puis je vais essayer de changer le monde par l'entremise de la politique. Mais une fois que t'es élu, puis une fois que t'es dans le bateau, tu te rends compte qu'un gouvernement, c'est un très gros bateau qui bouge pas très vite. Puis si tu veux pouvoir réaliser tes ambitions, si tu veux pouvoir réaliser tes projets, tes idées, faut que tu sois capable d'avoir un bateau qui est efficace, qui est capable de virer de côté rapidement.
Et ça, c'est vraiment possible pour un gouvernement?
Ben moi, c'est là que l'intelligence artificielle a rencontré mon chemin. Mmh. C'est-à-dire que je mets beaucoup, beaucoup d'énergie à vouloir transformer la ville pour que la municipalité soit la plus efficace, plus efficiente possible. Puis ça passe, entre autres, par l'automatisation des processus. Un des gros, grands enjeux qu'on a, c'est que les ressources sont limitées. Donc, l'argent qu'on a est très limité. Donc, plus on est capable d'être efficace, plus on va être rapide, mais aussi plus on va être capable d'allouer l'argent à des projets de société. Et donc, d'automatiser des tâches qui peuvent être souvent ennuyeuses pour les employés, mais aussi coûteuses pour les citoyens et pour la municipalité. C'est une façon pour moi de transformer la ville pour avoir une ville qui va être plus efficace, mais qui va me permettre par la suite d'adresser plein d'enjeux de société.
Si je peux me permettre, je trouve ça fascinant parce que moi, je pensais pas avoir autant de points en commun avec toi, pas parce que de loin, tu n'avais pas l'air d'avoir les mêmes valeurs, mais je trouve ça drôle que
dans ton parcours... Est-ce que j'ai l'air d'un mauvais gars?
Non, pas du tout, mais c'est ça, c'est pas du tout parce que ce qu'on voyait de toi, là, c'est plus parce que tu mentionnes travailler à l'ONU. Ça, c'est un de mes grands rêves, là, c'est travailler à l'ONU. Puis je pense que parfois, ça part de très, très grands rêves, de l'impact que tu vas avoir sur le monde. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, hey, il y a tout un monde à proximité qui ont besoin de soutien, de connaissances. Puis je trouve ça super beau ce que tu fais à Laval, justement parce que dans une ville, il n'y a pas cette demande de performance. T'sais, une ville, puis je pense que tu l'as mentionné dans d'autres entretiens aussi, une ville ne va jamais tomber littéralement en faillite, mais il y a quand même des gens qui s'attendent à une qualité de service. Puis les gens sont parfois un peu cyniques, ils s'attendent à ce que ça ne va pas bien. Mm-hmm. Ouais, mais toi, au contraire, tu veux que ça aille bien.
C'est ça. Bien, souvent, j'ai les gouvernances comme un monopole. Mm-hmm. Une entreprise, d'habitude, quand elle offre un mauvais service à ses clients, elle va faire faillite, ça va aller mal, puis il y a un compétiteur qui va prendre la place parce qu'il va offrir une meilleure qualité de service. Mais pour un gouvernement, malheureusement, il n'y a personne qui va commencer à fuir le Québec ou fuir une ville en masse parce que les services ne sont pas efficaces. Et donc ça fait en sorte que des fois, les gouvernements, on ne met pas beaucoup d'énergie à se remettre en question. Mais je pense que c'est tellement nécessaire. Puis moi, souvent, je mets mon chapeau de citoyen, puis quand que je vis comme des citoyens des frustrations... quand j'appelle différentes agences gouvernementales ou que je vais à l'hôpital ou que j'appelle l'Agence du revenu du Canada, puis que je vis une mauvaise expérience, et je trouve ça extrêmement frustrant, puis j'essaie de m'inspirer de cette frustration personnelle-là que j'ai comme citoyen pour me dire, OK, j'ai quand même l'opportunité dans la vie d'être dans une position où je peux changer des choses. Donc, changeons-les pour s'assurer qu'il y a un bon service qui soit offert aux citoyens. Puis des fois, ce que les élus ne se rendent pas compte, c'est que tu peux bien avoir des idées comme élu, tu peux peut-être vouloir construire des maisons des aînés ou construire un nouveau parc ou développer une nouvelle ligne de métro. Mais si ta machine administrative gouvernementale n'est pas efficace, ça va... tout va être plus long, tout va être plus cher, tout va être plus frustrant. Donc, on a, pour moi, en fait, c'est une fondation solide qu'on doit construire. Mm-hmm. Puis une fois qu'on a cette fondation-là, sky's the limit, mais je crois que d'utiliser la technologie nous permet de construire une fondation qui va être efficace, qui va être solide pour les services qu'on veut offrir à la population par la suite.
Le mandat que tu t'es donné en ce moment, c'est de construire cette fondation-là?
Oui, oui, définitivement. Là, ça fait quelques années que je suis maire. J'ai fait 2 mandats comme conseiller municipal avant, donc ça fait longtemps que je vois la ville évoluer. Puis une de mes grandes frustrations, c'est que à un moment donné, j'avais demandé ça prenait combien de temps faire un projet à la ville, construire quelque chose. Puis la chose qu'on faisait le plus rapidement, c'était un chalet de parc. Ça me prenait 6 ans. Entre le moment où on disait « OK, on va construire un chalet de parc dans tel quartier » puis le moment où il était ouvert... Tu sais, les budgets sont prévus sur 3 ans, puis après ça, les processus d'appel d'offres, les plans et devis. Donc, on a des processus qui sont très, très lents, très lourds. Et moi, je me suis dit, je m'en rappelle encore comme c'était hier, j'ai dit 6 ans. Puis il y a quelqu'un, un des employés de la ville qui m'a dit, « Monsieur Boyer, je comprends pas votre réaction, vous trouvez que c'est rapide ou que c'est lent? » Donc, moi, j'en revenais pas. Là. On construit une maison en 1 an ou 2. Je peux pas croire qu'on s'en prend 6 ans à faire un chalet de parc. Donc,
c'est une question de concertation publique. Il y a tellement d'intervenants, puis il faut demander la permission à gauche.
Il y a beaucoup de choses. C'est gestion des parties prenantes, en effet. Même comme maire, tu n'as pas une baguette magique pour tout changer. Il faut que les employés soient d'accord, que les élus de ton parti soient d'accord. Il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale de la population. Donc, je dirais qu'il y a un côté que c'est de fédérer les parties prenantes, ce qui est super important pour que les projets aient de l'avant. Il y a un côté que c'est les processus, des fois, qui sont très longs. Tu as les remises en cause puis en question, les priorités qui changent au fil du temps aussi. Tu sais, au Québec, on est vraiment mauvais pour faire du transport en commun parce que à chaque fois qu'il y a une élection municipale, provinciale ou fédérale, on critique les projets, on les remet en cause, on veut changer la portée. Mm-hmm. Tout le monde veut mettre sa couleur au projet. Mais là, ça fait qu'on retourne toujours à la case départ. Donc, à Laval, on travaille fort pour... aller chercher l'acceptabilité sociale des citoyens, mais une fois qu'on l'a, après ça, raccourcir les délais d'approbation, puis on s'est mis des étapes où il n'y a pas de retour en arrière. Mm-hmm. On met un échéancier à respecter. Et tout ça pour dire qu'avant, ça nous prenait 6 ans à faire un chalet de parc, qui est un projet relativement mineur. Puis aujourd'hui, on construit des projets de 50 millions, comme des cours. On construit une nouvelle cour municipale qui va être entièrement numérisée. Ça va être la première au Québec.
Ça veut dire quoi, c'est entièrement numérisé?
Donc, il n'y aura plus vraiment de papier. Donc, tous les dossiers juridiques, les procès-verbaux, toutes les contraventions, tout va être accessible sur Internet pour les employés également. Donc, on va sauver beaucoup de temps. Et la victime qui passe à travers le processus judiciaire va avoir une expérience qui va être vraiment améliorée. Mais ce projet-là, en fait, on est en chantier. On vient de lancer le chantier ce mois-ci et devrait ouvrir dans 2 ans. Et on a commencé le projet l'année dernière. Donc là, en 3 ans, on a fait un palais de justice entièrement numérique, alors que là, pas si longtemps, ça nous prenait 6 ans à faire un chalet de parc.
Mais moi, j'ai une question qui me brûle depuis le chalet de parc. Là, parce que quand même, le chalet... c'est socialement acceptable, un chalet. Et toi, tu ne te gênes pas pour dire « Je fais des processus 100% numériques, je vais utiliser l'intelligence artificielle. » C'est quand même assez paradoxal parce que l'IA n'est pas tant socialement acceptable que ça parce que ça a un impact sur le travail, ça a un impact sur l'environnement, la démocratie, ça, on l'a vu, l'art et la culture. Puis ça, c'est tout des piliers d'une société puis tous des piliers que vous retrouvez dans une municipalité. Donc, comment est-ce que tu veux avancer dans cette acceptabilité sociale lorsque tu fais des projets propulsés par l'IA? Comment tu l'adresses auprès des citoyens?
Ben, je pense que c'est une excellente question. C'est vrai que des fois, on a un peu peur de la technologie, entre autres par rapport au respect des données privées pour les citoyens, mais même pour les employés. Quand on a commencé à faire des démarches pour venir numériser les processus ou automatiser des tâches, on a 7 projets d'intelligence artificielle en ce moment à la ville, ben c'est sûr, ça vient avec une certaine inquiétude.
7 projets?
Oui. Je pense qu'il faut expliquer les décisions, expliquer pourquoi on fait les choses. Par exemple, au sein d'une municipalité, puis je vais donner un exemple très concret. On paye 110 000 factures à chaque année à la ville. On a 22 personnes à temps plein qui payent toutes ces factures-là. Donc, s'assurer qu'ils reçoivent la facture, s'assurer que ça a bien été budgété, que les chiffres sont bons, que tout a été autorisé avant de faire le paiement. On est en train d'implanter une intelligence artificielle qui va nous permettre, dans la très grande majorité, de les payer automatiquement. Donc, c'est un logiciel maintenant qui va faire la conciliation comptable, faire les vérifications. On pense qu'on n'aura plus besoin de 22 personnes, mais peut-être plus de 7. Donc, c'est sûr que ça crée de l'incertitude pour les employés qui travaillent à la ville. Il va arriver quoi avec mon poste? Est-ce que ça veut dire que vous allez juste abolir mon travail?
Les gens sont inquiets.
Exact. Donc, c'est important, je pense, c'est d'expliquer les choses. Dans mon cas, c'est on a rencontré les employés pour leur dire, regardez, la ville est en croissance. On a 4000 à 5000 nouveaux citoyens à chaque année. C'est pas demain qu'on va commencer à réduire le nombre d'employés. Par contre, on va peut-être moins besoin d'en engager. Puis vos tâches vont être plus intéressantes parce que plutôt de faire quelque chose qui est routinier, ennuyeux, vous allez pouvoir mettre vos énergies dans des choses où on a besoin de plus de créativité, où on a besoin de vos idées, à valeur ajoutée, des choses plus intéressantes pour vous.
On est sur notre X rendu là.
Exact. Donc, je crois que c'est de bien expliquer les choses. Puis, ce qui est intéressant, c'est rare qu'un gouvernement fait de l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est une réalité. C'est comme Internet, là. Peut-être qu'il y a des villes dans les années 90 qui se disaient pas besoin de ça, moi, l'Internet. Mais aujourd'hui, s'ils sont pas là, il y a un problème. Donc, moi, je crois qu'on doit emboîter le pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas là pour faire de l'argent non plus. Et comme gouvernement, ben, la protection des données privées, c'est important. Donc, je crois que c'est aussi un beau terreau d'expérimentation au sein d'un gouvernement. Puis un peu comme ce que vous faites au conseil, c'est aussi travailler avec des entreprises qui développent des solutions. Puis les solutions, ben, elles sont pertinentes dans le domaine privé, mais elles sont pertinentes aussi pour le public.
Mais au départ, oh, excuse-moi.
Ben, je voulais donner un peu de visibilité au conseil, justement. Je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi la mission, le mandat du conseil d'innovation?
Dans le fond, ça fait 4 ans que le Conseil d'innovation existe. Puis notre rôle, en fait, c'est de dynamiser l'innovation dans les entreprises, mais dans la société québécoise. Donc, on travaille sur 4 piliers différents. Le premier pilier, c'est vraiment d'aller comprendre avec de la donnée. Tu sais, c'est quoi l'arc narratif? Tu sais, quand tu reçois une donnée de sondage pour dire, hey, on a un taux de productivité un petit peu bas au Québec, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la population, les entreprises? C'est quoi les actions pour le gouvernement pour faire améliorer un peu cette productivité-là où la culture d'innovation est un peu plus basse à certains niveaux, dans certains secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis une fois que tu comprends, mais on peut mieux occuper notre rôle de conseiller le gouvernement sur les programmes politiques publiques. Dans mon cas, c'est lié à 100% sur l'intelligence artificielle. Puis on est là aussi pour propulser. Propulser, ça veut dire quoi? C'est d'aider avec des outils les entreprises et les différents pans de la société à instaurer cette culture d'innovation et comprendre et démystifier un petit peu l'intelligence artificielle. Donc, on a créé au conseil un réseau des conseillers en innovation qui sont 600 aujourd'hui. Ce sont tous des conseillers en développement économique dans les différentes régions parce que on voulait sortir du fait que l'innovation, c'est juste Montréal. L'intelligence artificielle, c'est juste Montréal parce que c'est pas le cas. T'sais, il y a comme un langage local à cette innovation-là. Donc, permettre aux conseillers en innovation dans les régions de traduire qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour eux, l'innovation, et qu'est-ce que ça leur permet de faire au niveau des services qu'ils veulent propulser, la proximité aussi avec les différentes industries, tu sais, qui peuvent se retrouver seulement dans une région, mais peut-être pas dans une autre. Pour nous, ça devenait important. Puis finalement, on est là pour promouvoir les bons coups. Tu sais, l'objectif, tu sais, pour nous, c'était justement d'être un pont neutre et fiable pour pousser l'information puis inspirer les gens à travers l'éducation. Puis, tu sais, en date d'aujourd'hui, là, on est en 2025, là, moi, je suis 100% de l'équipe en intelligence artificielle. Donc, en ce moment, on est une personne. Mais je me dis, grâce au réseau des conseillers qu'on va former en intelligence artificielle, mais les gens vont être capables d'identifier c'est quoi un projet d'intelligence artificielle, c'est quoi le grand potentiel, puis comment les aiguiller aussi à travers différentes ressources qui existent au Québec pour les aider à aller plus loin.
Donc, oui, puis c'est probablement ça le grand enjeu, c'est qu'un entrepreneur, souvent, c'est quelqu'un de passionné par son projet, son service, son produit, mais ça ne veut pas dire qu'il est familier avec les outils technologiques qui vont lui permettre de mieux faire son
projet. Puis dans
son
ADN, peu importe qui, c'est la survie. T'sais, tu nais, tu veux survivre. C'est pour ça que tu te nourris. Là, tu deviens un entrepreneur. Tu veux que ton entreprise survive parce que c'est peut-être pour toi, c'est peut-être pour ta famille, mais c'est aussi pour les travailleurs. Donc, tu sais, quand t'aimes profondément ce que tu fais, puis la mission que tu fais, puis la valeur que tu ajoutes à la société, mais parfois, en creusant, tu te dis, ben, peut-être que l'intelligence artificielle va me permettre de rester dans la compétition, de créer encore plus de valeur et de devenir, tu sais, vraiment une marque, un héritage pour la société québécoise. Mm. Parce que les gens, ils ont souvent peur, puis tu l'as nommé tantôt, perdre leur emploi. Mais la vraie question que les gens devraient se poser, c'est ça fait combien de temps que ce poste-là il est affiché puis il n'y a personne qui applique dessus? Puis ça, les gens l'oublient. Tu sais, disons, on prend une entreprise où un des métiers, c'était de regarder les défauts de fabrication dans des boîtes. Mais il y avait une personne qui regardait toutes les boîtes, puis tout d'un coup, à chaque fois qu'il voyait un défaut, il l'enlevait. Ça a été remplacé par la vision par ordinateur et les gens, ça n'a pas été très bien accepté au départ. Les gens disaient, ça y est, on est en train de remplacer du travail pour des humains. Et je dis, c'est peut-être pas ça la question. C'est justement ce poste-là, ça faisait 6 mois qu'il était affiché, il n'y a personne qui voulait de ce poste-là. Mmh. Mais par contre, le monde avait besoin de ces fameuses boîtes en carton pour pouvoir faire des déménagements, pour permettre à d'autres industries de faire de la livraison locale ou outre-mer. Et c'est ça la problématique. C'était comment faire pour continuer à produire ce que les gens avaient besoin. Ça passe par l'intelligence artificielle.
Oui, puis tantôt, tu disais, en effet, il y a de combler des besoins en termes de ressources humaines pour une entreprise, mais tantôt, tu parlais aussi de la survie. Mm-hmm. Puis ça, des fois, les entreprises... On a la recette d'un gâteau qui se vend bien, et qu'on se dit on va la reproduire. Puis des fois, ça fait 30 ans que tu vends la même chose, mais la vie change, la société change, les besoins changent. Puis là, du jour au lendemain, des fois, les entreprises qui font faillite, qui ferment les portes, puis se demandent pourquoi. Mais je crois qu'il y a cette nécessité-là aussi de savoir se re-questionner, se transformer, s'adapter au changement de la société. Et pour moi, c'est ça, au final, pas important l'intelligence artificielle, t'sais, c'est pas de faire de l'intelligence artificielle pour faire l'intelligence artificielle. Mm-hmm. C'est que c'est juste un outil qui nous permet, dans certains cas, de faire mieux, de faire plus rapide, de faire pour moins cher et donc de se démarquer.
Ça, je l'ai vu dans mon parcours en intelligence artificielle. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Puis au tout début, les quelques compagnies qui faisaient ça arrivaient avec « Hey, regardez comment c'est cool », mais c'était le fameux cas de « J'ai une solution, puis je cherche le problème. »
C'est wow, mais je sais pas quoi faire avec. Tu
crées encore plus de problèmes.
Ouais, malheureusement, parce qu'on est tellement excité par cette solution-là. Puis moi, je fais de la programmation depuis que j'ai 16 ans. Of course, je trouve ça vraiment le fun de... moi, j'ai utilisé Excel au tout début pour résoudre des sudoku. Il n'y avait aucune application pertinente d'utiliser Excel pour ça. Mais
fait que tu triches au sudoku?
C'est ce que je retiens aussi.
Je me suis cherché une façon plus compliquée de résoudre un sudoku. Par contre, je connecte énormément avec ce que vous dites ici. Je pense à mon oncle, il y a 30 ans de ça. Quand il était jeune, il triait des concombres. Sa job, c'était de regarder des concombres sur un convoyeur. Puis il me disait, je reviens chez nous le soir, puis je rêve à des concombres. Puis un cas plus récent de ça, ça va être le fait que on veut... Il y a des gens sur les autoroutes qui comptent l'argent. Tu t'arrêtes à leur voiture, ils sont seuls dans leur boot, puis leur fonction principale, c'est de faire ça. Mais il y a des tâches comme ça qui sont abrutissantes, qui sont pas valorisantes pour... en fait, qu'on souhaiterait pouvoir automatiser. Mm. Puis le vrai débat, c'est est-ce que la solution qui est disponible maintenant en vaut le coup? Puis on est rendu à un point pivot où est-ce qu'on peut se dire, effectivement, il y a des solutions qui viennent vraiment résoudre un de ces enjeux-là. On parle de 7 projets. Moi, je trouve que c'est beaucoup, 7 projets lancés en parallèle dans la ville. On parle de 600 formateurs ou des gens qui vont venir accompagner. Tu l'as dit au futur, mais ça a déjà démarré cette initiative-là,
oui,
non?
Oui, mais en fait, le réseau des conseillers existe déjà. Donc, ils ont toute cette certification qu'ils peuvent passer à travers un programme. Parce que quand même, au Québec, là, il y a presque 700 entités aidantes à l'innovation. Puis pour s'y retrouver, ben ce que le gouvernement nous avait demandé, c'est de créer comme cette map magique, c'est pour dire quelle est la prochaine étape pour certaines entreprises ou certains organismes pour passer à un niveau supérieur. Et ce réseau des conseillers existe, ont accès à une base de données qui s'appelle AccessPro, et pour eux, on va rajouter un module en intelligence artificielle pour qu'ils puissent démystifier. De un, tu sais, je pense que c'est un mythe de penser que tu peux adopter de l'intelligence artificielle parce que tu dois faire confiance. Au contraire, c'est que tu dois faire confiance en tes compétences à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, c'est cette même approche qu'on voulait faire pour les conseillers en innovation, c'est-à-dire, on va vous donner les principes de base, on va vous donner des codes d'usage, puis on va vous donner en fait cette carte magique-là vers les bons organismes pour vous aider pour passer à l'étape d'après. Donc, dans le fond, pourquoi je parle au futur, c'est qu'en date du début 2025, on est en train de finaliser la conception de ce module-là qu'on a fait en partenariat avec IVADO, un des organismes aidant à l'adoption d'intelligence artificielle, pour que cette formation-là soit extrêmement robuste, pour que les 600 conseillers soient à même de connaître assez les dispositions pour pouvoir bien aiguiller les entreprises.
Ce travail-là est super important. Mmh. T'sais, je crois qu'avec l'avènement de Trump aux États-Unis, on l'a vu, tout ce qui s'est passé avec les tarifs, oui. Les perturbations économiques que tout ça génère. Si nos entreprises veulent se démarquer, peu importe ce qui va arriver avec les États-Unis, oui. Il faut qu'elle soit performante, efficace, innovante. Oui. C'est en étant capable de développer les meilleures solutions, les meilleurs produits, les meilleurs projets que nos entreprises québécoises vont rayonner, pas juste au Québec, mais qui vont réussir à percer le marché européen puis aller c'est s'exporter sûr. Un peu partout dans le monde.
Ça commence à l'interne, tu sais. Puis je pense que ce que tu fais à Laval, pour moi, c'est le début de ce qu'il faut faire partout dans chaque ville. Mmh. C'est que les entreprises veulent un marché. Puis le marché, il doit se développer à l'interne, puis le marché est seulement prêt lorsque les gens comprennent la technologie ou comprennent le milieu dans lequel ils vont atterrir. Toi, ce que tu es en train de faire, là, c'est de rendre disponible ce nouveau marché qui est Laval en disant aux entreprises, moi, je suis prêt à aller vers des solutions aussi sophistiquées ou aussi avancées que l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va faire dans ta ville? Bien, les entreprises, les startups, ils vont avoir de l'appétit, puis ils vont dire, hey, nous, on va développer la meilleure solution. Puis je pense que c'est le meilleur cas d'usage, c'est de créer ce marché interne-là super robuste, indépendant de peu importe les frontières, qu'est-ce qui ferme ou qu'est-ce qui ouvre avec certains tarifs. Mais je pense que c'est là la richesse.
On peut donner une impulsion, il y a une inertie. Oui. Puis mm-hmm. si il y a un exemple qui vient d'un gouvernement, ça peut donner l'élan oui. que l'écosystème a besoin.
Oui. Ben, faut que je fasse mon coming out. J'ai pas juste été un élu dans la vie, j'ai aussi une personnalité qui est très entreprenante. Puis là, un certain nombre d'années, j'avais moi-même lancé une start-up avec des amis où on voulait en fait faire connaître en temps réel les temps d'attente dans les urgences du Québec, mais aussi aider les gens à trouver des rendez-vous médicaux. C'est vraiment de base quand tu y penses. C'est rien de révolutionnaire, mais pendant 2 ans, on a essayé de travailler avec le gouvernement du Québec puis le milieu de la santé, puis c'était extrêmement difficile. Souvent, on a des processus qui sont très archaïques, mais il n'y avait pas non plus cette volonté-là de se remettre en question. Tu sais, par exemple, nous, on voulait juste diffuser les taux d'occupation dans les urgences pour que le citoyen qui a un problème, dans un contexte, par exemple, montréalais, où il y a beaucoup de... Il y a plusieurs hôpitaux où tu peux aller. S'il y en a un qui a 8 heures d'attente puis l'autre qui a 3 heures d'attente, on voulait juste permettre aux patients d'économiser du temps. Mais même pour le réseau de la santé, ça vient régulariser l'achandage d'un établissement à l'autre. Donc, on a tout à gagner de faire ça. Mais souvent, les données étaient des mauvaises données. Puis quand elles existaient, on ne voulait pas les rendre publiques pour pas que les gens sachent qu'il y avait un problème.
C'était en amont qu'il y avait un problème. Ils n'étaient pas prêts encore à avoir cette solution-là? Ou c'est qu'il y avait une réticence ailleurs? Parce qu'un chalet, ça prend ça 6 ans à faire. Donc,
je pense que souvent, malheureusement, les gouvernements ne sont pas les meilleurs ambassadeurs d'innovation. C'est des gros bateaux qui bougent pas vite. Mais je pense que c'est tellement important parce que ça permet au gouvernement de donner des meilleurs services aux citoyens, mais ça permet aussi, comme tu le mentionnes, à des entreprises d'innover puis de développer des solutions qui peuvent être aussi après ça appliquées dans plein d'autres gouvernements au bénéfice de plein d'autres citoyens partout dans la province ou ailleurs dans le monde. Mais il faut créer une culture. Il faut créer une culture axée sur l'innovation où ça va être accepté, compris, valorisé. Puis ça, je pense que c'est peut-être l'élément qui est difficile. C'est que quand tu as des milliers d'employés, comment est-ce que tu t'assures que les gens embarquent dans le projet?
Oui, mais je pense que ça vient avec les mettre autour de la table. Moi, j'étais au sommet de Paris, on parlait d'intelligence artificielle. Puis j'ai été témoin d'un tellement beau panel. Puis tu sais, parfois, on est un peu tanné des panels parce que justement, il y a tellement des gens brillants qui ont seulement 2 minutes de micro. Mais ce panel-là était vraiment extraordinaire parce que tu avais quelqu'un de Airbus, mais tu avais aussi la secrétaire générale de Uni Global Union. Ça, c'est le plus grand syndicat au monde. Là. Ils sont 20 millions de syndiqués dans 150 pays différents. Puis, elle, ce qu'elle avait mis en place, c'était ce message-là de « Nous, on n'est pas là en tant que syndicat pour vous dire d'arrêter de faire l'intelligence artificielle parce qu'on a peur pour nos travailleurs qui perdent leur emploi. On est là pour vous dire, mettez-les autour de la table parce que c'est comme ça que vous allez développer des meilleures solutions qui vont être adaptées à ce qu'eux considèrent une valeur ajoutée ou vraiment une tâche récurrente. » Et je pense que si je prends un pas de recul pour les milieux, parce que j'ai passé 18 ans dans le réseau de la santé, à faire justement la transformation numérique, à faire de la stratégie de données. Mais il y a cette réticence-là, mais cette réticence-là vient d'une bonne volonté de dire, moi, ma source d'expérience fait en sorte que je suis capable de dire, dans une journée hivernale où la veille, il faisait très beau, le soir, il a plu, le lendemain, il faisait très froid, que j'ai besoin, dans les urgences, d'avoir des spécialistes en orthopédie parce que les personnes âgées vont tomber sur les trottoirs de Montréal, c'est sûr et certain. Mais ça, ça vient avec l'expérience. Ce qui peut être dit au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que l'IA est là pour rendre explicite ce qu'on sait de façon implicite. L'implicite, c'est notre expérience, mais l'implicite qui rend explicite en IA, c'est l'expérience humaine aussi. Donc, faire en sorte que ces gens-là soient autour de la table pour bâtir puis dire, hey, ta connaissance, je vais la mettre. Puis en plus, je vais supplier des données de plus. Parce que toi, tu sais la météo, mais nous, on a la donnée réelle sur la météo. On a la démographie, on a l'état des routes. Avec tout ça, là, ton intelligence va être encore plus grande. Puis c'est là, en fait, que quand tu assois les gens autour de la table, mais tout d'un coup, il y a des gens qui comprennent plus. Ces gens qui comprennent plus font en sorte que d'autres gens comprennent plus. Puis c'est là que tu atteins une certaine acceptabilité.
Oui, puis quelqu'un d'impliqué dans un projet en général va davantage y adhérer par la suite aussi. Donc
c'est pour aider à la mobilisation. On sensibilise, mais ça redevient un problème ou une solution autour de la communication. Il faut intégrer. Moi, je me rappelle, cette situation-là, je l'avais vécue il y a 3 ans de ça. J'étais à un événement, puis il y avait chef d'un des syndicats au Québec. Puis, j'étais autour du lunch avec lui, puis j'étais un peu préoccupé qu'on s'embarque dans un débat quand j'allais lui dire qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je fais ici. Puis il me dit, ah, l'IA, on a tellement besoin de ça. Puis je fais comme, OK, tu veux en parler? Wow, OK. Il en voulait. Il y avait un appétit pour ça. Il dit, on le voit, on le sait, on en veut. Dans ce que j'ai un ami dans une autre compagnie, lui, il met c'était du transfert de données à haut débit. Donc, système de caméra embarqué sur les autobus, par exemple, on parle de gigabits qui sont sur roue. Fait que lui, il a mis une technologie juste pour faire ce transfert-là quand ça revient en garage. Ben, la communication, ça s'est pas fait, c'est pas nécessairement son travail, c'est ses clients qui devraient faire la communication à l'interne chez eux, mais finalement, lui, ses caméras qui fonctionnaient par lumière, les gens qui travaillaient, ils ont mis de la peinture dessus. Ils sont comme, c'est pas vrai que tu vas me voler ma job. Il y avait de la réticence, il était sur la défensive de vivre ça. Puis au final, ça vient d'une communication. C'est drôle parce que ça me fait penser, Laetitia, tu m'avais parlé un peu de ton parcours quand tu étais allé au département de la police. Puis tu m'avais dit que tu avais vécu quelque chose de similaire par rapport à ça.
Oui, on l'a vu aussi en interne quand je suis arrivée. Donc j'ai travaillé à la sécurité publique départementale en France, il y a quelques années, en étant en informatique. Et quand je suis arrivée, mon collègue, ça faisait un an qu'il était là, en informatique. On avait comme un laboratoire numérique d'expérimentation dans le département. Lui est arrivé en premier. Quand lui est arrivé, les gens l'ont quasiment hué en se disant « Ouais, super, un informaticien qui arrive, l'application elle va sortir dans 6 ans, ça va pas nous aller, ça va pas être terrible. » Puis il a sorti une première application qui a vraiment bien marché, qui est un journal opérationnel pour tout ce qui est dépôt de plainte, justement. Moi, je suis arrivée un an après ça. Et quand je suis arrivée, premier jour, tout le monde dans les services, quand je leur ai dit que je travaillais avec cette personne, ils m'ont présenté leur travail, mais ravis qu'il y ait une personne de plus qui arrive. Et c'était vraiment la liste au Père Noël. Donc lui a essuyé le changement. Moi, je suis arrivée, les gens avaient envie de ce changement-là. Et c'était vraiment dans le département, parce qu'après, ailleurs, les gens ne savaient pas ce qu'on faisait. Donc, quand on se présentait à la gendarmerie, par exemple, qui n'est pas le même ministère, on nous regardait comme des aliens. On me dit, qu'est-ce qu'ils font, eux? C'est qui? C'est des enfants, parce qu'on n'avait que 20 ans. Alors que, généralement, c'est dirigé par des millions, puis des centaines de personnes. Pas juste deux personnes qui arrivent de terrain, parce qu'on faisait vraiment ça. On était sur le terrain avec la police. Puis, on évaluait le besoin. On essayait de comprendre c'était quoi leur processus pour faire en sorte qu'on crée une application qui s'adapte à eux et pas l'inverse. Parce que c'était ça le gros problème dans l'acceptation du changement.
Ça, ils l'ont senti, c'est pour ça qu'ils t'ont accueilli. Ouais.
Exact. Ils l'ont compris et ils étaient ravis parce qu'on faisait la chose avec eux, le développement de l'application. On sortait une première version assez vite et après, on itérait. Donc, ils nous faisaient des retours et 15 jours, un mois après, le retour était dans l'application. Donc, ils se disaient, ça, c'est génial. Déjà, on nous écoute. Et en plus, ça correspond exactement à nos besoins.
Ben, ça, c'est important. Je pense que ce que tu mentionnes, c'est de vivre des petites victoires. Mmh. Ça ne sert à rien d'arriver avec un budget de 100 millions puis vouloir transformer complètement l'ensemble de la façon que l'organisation fonctionne. C'est un petit peu comme ça qu'on le fait à Laval. On a demandé à nos employés d'identifier des endroits où on pourrait utiliser la technologie pour changer les processus et les façons de faire. Donc, ça vient de la base, ça vient des services qui proposent des idées. Et ça, c'est travailler avec eux. Puis, c'est pas des... Tantôt, je parlais, tu sais, on a 7 projets. C'est pas des projets de centaines de millions de dollars. Là, on a un budget de 1 million sur 1,2 milliard pour l'ensemble de la ville. Donc,
dans certains cas au privé, 1 million, c'est... pas la totalité d'un seul projet, pour certains cas. C'est pas la réalité chez Explorer, mais c'est quelque chose qui est une réalité qui est encore présente en 2025. Donc, comment vous y êtes arrivé?
Un million, c'est très peu pour faire 7 projets en informatique.
Mais je crois que l'idée, c'est de commencer avec des petits projets qui sont relativement faciles d'implantation. On travaille avec les employés, puis l'objectif, c'est d'avoir des petites victoires pour que les gens prennent confiance en eux puis adhèrent au processus puis finissent par en vouloir plus.
C'est l'approche des petits pas.
L'approche des petits pas, puis je pense que c'est important d'une part pour le côté social parce que l'humain, on est dans la réticence au changement en général. C'est peut-être encore notre instinct de survie, mais on connaît des façons de faire puis on s'est dit qu'on s'est rendu là on est ici aujourd'hui parce que c'est ça qu'on faisait avant. Donc, on est souvent réticent à changer. Mais c'est important aussi parce que de mettre des ressources considérables dans un projet, si ce projet-là ne fonctionne pas. En fait, plus tu vises large, plus les risques d'échec sont grands. Puis si tu vis un échec, il n'y a plus personne qui va vouloir embarquer à nouveau.
Non, mais là, on touche à la prise de risque, justement. Comment est-ce qu'on fait? J'imagine, Anne, tu es constamment confrontée à ça. Le gouvernement te demande, mais c'est un feu vert ou c'est un feu rouge? Faut y aller ou faut pas y aller? Puis toi, Stéphane, t'as décidé de donner le feu vert. T'as dit, let's go.
Ben pour moi, là, c'est peut-être ma personnalité. Là. Moi, j'étais un risk taker, mais mm-hmm. dans les défis, justement, pas juste avec l'intelligence artificielle, sur plein de dossiers, souvent, comme élu, j'arrive avec des idées qui sortent de la boîte. Puis des fois, les employés me regardent bizarre. Mais ça, j'avais déjà mentionné à des employés en disant, je sais que on sort du sentier battu, qu'on prend un risque, puis peut-être qu'on réussira pas. C'est normal. Quand tu innoves, quand tu fais différemment, ça se peut que tu te casses la gueule, ça se peut que tu vives un échec. Puis souvent, ce que je dis, c'est « mais c'est correct, on l'accepte, parce qu'on veut essayer des nouvelles choses, parce qu'on veut essayer d'innover, on veut être le leader, mais inquiétez-vous pas. T'sais, si on vit un écueil, si y a un projet qui fonctionne pas, moi, politiquement, je vais l'assumer. » Des fois, c'est ça aussi, c'est la crainte que si moi, je mets en place quelque chose comme employé, est-ce que je vais perdre ma job si ça ne fonctionne pas? Ah, donc, c'est aussi de créer un climat de confiance puis de dire, prends-en des initiatives, prends-en des risques, mais inquiète-toi pas que si jamais, parce que ça ne peut pas toujours être des succès à 100%, mm-hmm. Mais sache que c'est pas grave, là, si au final, le projet n'est pas une réussite, au moins, on aura appris
La leçon apprise.
Exact. Est-ce qu'il y a des projets que tu as en tête dont tu pourrais nous parler qui n'ont pas aussi bien réussi qu'espéré et pourquoi ça n'a pas bien réussi justement?
Pour l'instant, je vais toucher du bois, ça va relativement bien. Ça fait à peu près 2 ans qu'on met en place les différentes initiatives, les différents projets. Je crois que l'idée de partir petit, en travaillant avec les employés, on construit la compétence petit à petit, on gère le risque. Donc, honnêtement, en ce moment, on n'a pas vécu de grand écueil. Je pense que c'est beaucoup... l'enjeu, c'est beaucoup de changer de la culture. On est 4700 employés. Donc, parmi l'ensemble, il y en a quelques-uns qui étaient très tôt embarqués en processus et disent oui. Il y en a d'autres, des fois, qui sont plus réticents. Donc, c'est de faire cette transformation-là qui est graduelle. Gérer le changement, je pense, c'est le plus grand défi.
Et ça, gérer le changement... Avec des salariés qui sont plutôt jeunes, qui viennent d'arriver, je pense que c'est relativement facile parce que tout le monde a envie de changer les choses. Quand c'est quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il est à son poste. Là, par contre, je pense que ça doit être plus difficile et vous devez en avoir en interne qui sont là depuis longtemps. Comment vous faites pour ces personnes-là pour leur dire « Oui, ça fait 30 ans que tu fais le même métier, mais il va falloir qu'il évolue. »
Ouais.
Là, c'est plus difficile.
Ben, je pense que c'est par exemple, le rôle du conseil, c'est important parce que c'est de créer une société, hein, c'est de travailler avec tout le monde. Les gouvernements, les entreprises, les groupes communautaires, c'est de faire les interventions publiques comme on fait aujourd'hui au podcast pour expliquer un peu l'idée, la démarche. Donc, je crois que c'est en créant à l'échelle de la société une certaine prise de conscience sociale qu'on va faire cette transition-là.
Puis en douceur aussi parce que ce qu'on veut, c'est de maintenir la crédibilité des gens puis la dignité des gens. Dans toute transformation, que ce soit technologique ou non, la dignité de la personne puis son bien-être, ça devrait être le cœur même. Puis tu, j'apprécie beaucoup la façon que tu l'as amené. C'est qu'il y a le changement, il y a l'expérience, comme tu dis, Laetitia. Mais je pense que quand tu impliques cette personne-là, tu dis toute l'expérience que tu as eue jusqu'à ce jour, on va l'utiliser pour en faire un héritage plus grand, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont en bénéficier. Puis ça, je pense que c'est le message clé. Tu sais, l'humain, là, on a toujours la nostalgie de la souffrance, parce que tu penses que tu as passé par cette souffrance-là puis que tu as survécu, les autres après toi doivent souffrir pareil parce que toi, tu l'as survécu. Puis l'exemple parfait, là, c'est justement quand les moteurs de recherche comme Google ont sorti. Moi, quand j'étais à l'université, je devais chercher des références, noter les références, aller voir la libraire pour voir les références. Puis parfois, ça prenait beaucoup de temps avant que les références arrivent et je devais aller en chercher moi-même. Puis j'avais une pile de livres, puis la moitié, c'était pas bon, les références que j'avais. Mais tu sais, moi, ma fille, elle a 12 ans aujourd'hui, puis elle dit « Maman, je suis tannée que tu me parles de la bibliothèque. »
C'est quoi ça, une bibliothèque?
Elle dit « Tu sais, je sais que t'as aimé ça aller à la bibliothèque, puis tu m'expliques que c'était bien parce que t'as appris beaucoup. » Elle dit « Mais moi, j'ai pas besoin de ça aujourd'hui. J'ai comme plein d'informations disponibles à ma portée. » Donc, elle dit « J'ai pas tant besoin de cette nostalgie-là. » Puis j'ai trouvé ça beau comment qu'elle l'a amené. Parce qu'elle dit « Tu sais, toi, on dirait que tu t'es attachée à quelque chose parce que tu as souvent survécu puis tu as remis des travaux de cette façon-là. » Elle dit « Mais moi, elle dit, j'ai pas besoin de faire ça. » Donc, ce bout-là, il est accéléré pour moi. Puis ça, je trouve que c'est super bien de nous le ramener parce que parfois, quand tu es d'une autre génération qui n'a pas vécu avec la même technologie, tu as envie que l'autre souffre. Tu sais pas pourquoi. Tu dis, tu sais, puis ça, c'est la même chose en plein de métiers, les avocats, les médecins, peu importe quel métier. Quand tu as passé par un stage qui a fait en sorte que tu as écrit beaucoup, puis tu sais, chez les avocats, on le voit énormément, tu sais, quand ils passent les premières années dans une firme, bien, c'est eux qui lisent tous les livres, c'est eux qui récoltent toute la donnée. Mais avec l'intelligence artificielle, tu vois que ce bout-là, il est accéléré. Mm-hmm. Puis c'est cette rupture-là qui fait en sorte que est-ce que la solution va être acceptée ou pas? Puis souvent, la solution est moins acceptée par les générations qui ont passé par là. Mais justement, il faut se défaire de cette nostalgie-là. Je pense que c'est pas un bon sentiment à garder.
Chacun peut devenir aussi le champion du changement ou être un ambassadeur. Puis pas parce que c'est comme ça que tu as fait quelque chose pendant 25 ans que tu pourrais pas être justement la personne qui va aider son équipe à arriver à une nouvelle étape avec des nouveaux outils puis à changer les choses.
Oui.
Ce que je trouve le fun ici, c'est qu'à date, on a déjà touché à plusieurs types d'IA. Bien sûr, l'IA générative, ça nous permet de gérer des grands contenus puis de fournir une synthèse. Donc, on génère du texte. Donc, de pouvoir rechercher l'information à travers un bassin d'informations. On parle pas juste de « il y a des humains qui l'ont fait puis qui l'ont mis sur Wikipédia », mais on parle de « on avait une conversation, il y a un transcript, j'ai oublié le terme français pour ça, qui a été produit. Mm-hmm. Puis de là, on se retrouve avec un bassin de connaissances. En fait, on se retrouve avec trop d'informations. C'est devenu... L'information, c'est pas de la connaissance. Donc, c'est devenu une source qui est problématique. L'IA vient aider à avoir accès à l'information qui est pertinente aux besoins. Donc ça, c'est un des cas. Depuis maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on a ChatGPT et puis c'est l'un des premiers usages. Encore une fois, hier, il y avait une compagnie qui me présentait comment ils voulaient innover au niveau des RFP. Donc, ils ont mis en place un processus, oui, Request for Proposal, donc appel d'offres. C'est un processus qui est très fréquent avec le gouvernement, des compagnies privées qui veulent faire affaire avec eux. On parle de centaines de pages qui sont mises à disposition de ceux qui veulent bien répondre à l'appel. Donc, c'est un processus qui est complexe parce qu'on veut de la transparence, parce qu'on veut rendre ça accessible à tous, puis le faire de façon éthique. D'autres, on le voit aussi, ça fait partie des premiers outils qu'on a mis en place finalement pour nos clients. Un des outils qui est apparu, justement, ça m'a fait penser à ça, aller à la librairie. Une des compagnies avec lesquelles on a affaire, j'aimerais donc pouvoir les nommer, c'est au niveau de la recherche dans un domaine de science. Donc, ils ont des PhD. La donnée, elle est là. C'est juste qu'ils ont un bassin d'articles scientifiques qui est si grand que finalement, ils se retrouvent à devoir passer leur temps à déblayer l'information. Ce qui était intéressant, c'est que non seulement il y avait besoin de rechercher des mots, mais il y avait aussi besoin de rechercher des formes géométriques. Puis là, ça nous a amené dans une autre direction. Finalement, c'est quoi qui prend beaucoup de temps au Québec puis ailleurs dans le monde? C'est de faire de lire des plans de vie. On est dans un spectre qui est similaire au RFP. On a un document, sans blague, ça peut se rendre jusqu'à 600 pages. Bien sûr, il y a des sections. Donc, si toi, tu es dans les portes et fenêtres, ben, tu peux aller dans la section 300 puis tu sais que tes affaires sont là.
Puis peut-être pour que les auditeurs comprennent, c'est que quand un gouvernement donne un contrat, les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde. Donc là, si on dit juste on veut une porte de 42 pouces par 48 pouces puis qu'on va avoir un appel d'offres avec ça... Puis que là, finalement, le plus bas, celui qui soumissionne le plus bas prix gagne le contrat. Puis que là, finalement, la porte est en styromousse. Puis on dit, hey, c'est pas ça que je voulais. Je la voulais en acier. Ah, ben là, c'était pas spécifié. OK. Fait que là, tu rajoutes une spécification.
C'est la faute.
On a la dimension, après ça, on a en acier. Mais au fil des décennies, on est rendu que les gouvernements nous appellent d'offres ont des centaines et des centaines de pages parce qu'on essaie de couvrir tous les cas potentiels.
C'est pas se faire avoir une
pour emploi, minimiser les risques. Ouais. Puis comme on peut pas travailler de gré à gré, tu sais, dans le privé, des fois, c'est je connais Anne, j'ai toujours fait affaire avec elle, on va s'entendre. Puis si elle sent que je suis pas content de son dernier contrat, elle va peut-être se corriger parce qu'elle veut que je lui redonne mon prochain contrat. Mais dans le public, comme c'est juste le plus bas soumissionnaire, celui qui trouve la faille dans les documents, des fois, c'est là qu'il est capable de tirer son épingle du jeu. Plus d'argent.
Et il est là, mon...
Donc, nous, on essaie de colmater toutes les failles possibles, mais là, on se retrouve avec des documents tellement complexes à lire. Donc, en effet, c'est là que des fois, des outils comme l'intelligence artificielle peuvent aider à faire la recherche de l'information nécessaire pour le soumissionnaire.
Mais t'imagines, c'est juste, là, tu parlais de porte et fenêtre, mais t'imagines quand les gens vont aller rechercher une solution propulsée par l'IA, à quel point on va devoir mettre des critères spécifiques puis s'assurer que les gens qui rédigent ces appels d'offres-là comprennent c'est quoi les différents piliers nécessaires et ceux qui lisent comprennent aussi c'est quoi les différentes dispositions pour s'assurer que le critère y est répondu ou non. Donc, on s'en va vers un monde quand même de plus en plus complexe où les gens vont devoir être formés. Donc, moi, j'y crois pas que... il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Il y aura du travail pour tout le monde.
Le type de travail va se transformer.
Exactement. Tu sais, puis avec l'Internet, les gens pensaient qu'on allait être une société en chômage. Mais tu sais, on s'est juste transformé. Il n'y a pas grand monde qui ont perdu leur travail à cause d'Internet.
Le 100 ans, les lampadaires, c'est des lampes à huile, puis il y avait des cols bleus qui les allumaient une à une. Mais c'est sûr que si on s'était dit, non, on va rester à l'huile pour préserver les emplois...
Oui.
On aurait probablement fait une erreur.
Il y a eu plusieurs révolutions à ce niveau-là, technologiques, puis des gens qui connectent le téléphone. Tu n'appelles pas à une centrale qui dit à qui tu veux parler. Non, ça ne se passe plus, ça. Ce travail-là n'existe plus. Puis cette spécialisation-là a été perdue, malheureusement. Mais effectivement, on génère des emplois qui deviennent peut-être plus dans la stratégie, dans la réflexion, dans le design, dans la créativité. On se pose des questions. C'est comme ça que j'encourage quiconque me le demande à utiliser les outils à la ChatGPT. L'outil, il t'aide à réfléchir. Il t'aide à t'amener plus loin dans tes réflexions. Il te présente quelque chose qui est une version 0, puis ensuite une V1, mais c'est toi qui la bonifie à chaque fois. Donc, l'IA t'amène à être la meilleure version de toi-même. Et puis, c'est comme ça que je vois sa place. Je suis content de voir que c'est aussi comme ça que vous l'intégrez. J'ai le goût de vous demander, parce que là, on est très groundé, puis j'adore ça. C'est ça qu'on aime entendre chez Explorise, des trucs concrets, mais j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir? On n'est pas tout à fait rendu là, mais je vois le bout, là, puis je me dis, on s'en va là. Y a-t-il quelque chose que vous voyez pour Laval, pour le Québec, pour le Canada, que vous aimeriez vraiment qu'on aille dans cette direction-là?
Bien, moi, c'est sûr que c'est un projet vraiment de cœur qui est en train de se produire. On avait fait le rapport prêt pour l'IA. Donc, il y a eu tout ce choc mondial-là. En 2022, les gens ils disaient que ça va être important de ralentir sur le développement de l'intelligence artificielle. Puis le gouvernement du Québec avait demandé au Conseil d'innovation de partir dans une réflexion. Puis nous, on l'a fait à la sauce Conseil d'innovation. Donc, on a fait une réflexion collective. On avait rassemblé 15 co responsable, notamment Éric Gingras, qui à ce moment-là était président de la centrale syndicale du Québec. Je trouvais ça super intéressant parce qu'on était dans un printemps assez unique aussi où 60 000 travailleurs allaient dans les rues. Éric était dans les rues aussi, puis l'après-midi, il venait travailler pour faire la réflexion collective sur qu'est-ce qui devrait être le développement et l'utilisation responsable de l'IA pour le Québec. Donc, tu sais, dans cette mouture-là, tout ce que je vois pour le Québec, c'est cette souveraineté numérique. Ça, ce serait mon grand rêve. Parce que quand tu demandes à peu importe quelle IA générative aujourd'hui, quel est le mets fin et raffiné du Québec, ben Poutine va sortir. Tu sais, puis on sait, Poutine, c'est pas un mets raffiné, mais ça a l'air super anodin comme histoire. Mais pour moi, ça montre à quel point notre authenticité linguistique va devenir importante. Puis avec la Bibliothèque Archives nationales du Québec, avec le ministère de la Culture et des Communications, on est en train de mettre l'étude de faisabilité pour créer notre propre base de données culturelles québécoises et autochtones. Les gens, ils disent, ah, mais c'est culturel. J'ai dit, mais tout part de la langue. Tu sais, imaginez que cette infrastructure fonctionne avec l'ensemble des données culturelles du Québec. Ce qu'on arrive à créer, là, c'est de comprendre c'est quoi l'infrastructure du futur. Et la capacité. Tu sais, on en parle beaucoup, tu sais, on devrait investir dans notre capacité de calcul, mais en date d'aujourd'hui, c'est difficilement tangible. Puis ce qu'on veut, c'est des faits pour pouvoir mieux aiguiller la population puis le gouvernement. Donc, cette base de données, là, on s'imagine dans 5 ans, mais là, OK, moi, je suis très optimiste, mais dans 5 ans, on arrive avec cette base de données, on arrive à entraîner nos propres modèles québécois. T'sais, on n'est plus dépendant de l'API de ChatGPT. Donc, on n'est plus dépendant de cette structure-là qui a été montée. Et en plus, notre IA, elle hallucine moins et elle parle à l'ensemble des pays de la francophonie. Parce que les pays de la francophonie cherchent aussi, eux, cette indépendance-là linguistique. Puis je pense qu'on en a beaucoup à donner lorsqu'on parle dans notre propre langue. Tu sais, je ne sais pas si vous parlez plusieurs langues différentes, mais il y a souvent comme des langues dans lesquelles vous êtes beaucoup plus confortable parce que vous avez des meilleurs arguments, parce que vous êtes beaucoup plus charismatique. Mais je pense que c'est la même chose avec l'intelligence artificielle et aussi les résultats qui en découlent. C'est que tu as des meilleurs résultats quand tu l'as dans ta langue native et d'origine. Donc, ça, mon grand rêve, là, ce serait qu'on y arrive à créer cette base de données à travers laquelle on va entraîner nos propres modèles.
Non, c'est très bien. Moi, de mon côté, c'est mon souhait, ça serait que tous les gouvernements adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle parce qu'ultimement, c'est des meilleurs services pour la population. C'est accès à un médecin plus facilement, c'est des résultats de diagnostic plus rapides. Au niveau municipal, on pourrait penser, par exemple, à l'habitation. On a vu dans les dernières années le coût du loyer d'hypothèque augmenter beaucoup. Il y a plein de raisons, c'est un petit peu complexe pourquoi ça, l'explication à ça, mais plutôt que de prendre 6 mois, on a un projet actuellement où l'analyse des demandes de permis va se faire par intelligence artificielle, donc plutôt que d'attendre 6 mois qu'un employé ait révisé manuellement les plans, on va pouvoir avoir une première réponse instantanément. Mais à l'inverse aussi, quelqu'un qui a un terrain qui veut savoir qu'est-ce qu'il peut construire dessus pourrait générer 500 options différentes, puis il aura juste à choisir le scénario qui lui plaît le plus, mais même dans la façon qu'on construit, parce qu'une des raisons pourquoi l'habitation coûte cher aujourd'hui, pourquoi un condo 3,5 coûte 500 000, c'est parce que les coûts de construction sont rendus très, très, très élevés. Mais avec une grande capacité de calcul, on va pouvoir aussi dire à l'intelligence artificielle, voici tous les matériaux disponibles dans le monde, voici toutes les techniques de construction possibles, puis trouve-moi la recette qui va faire en sorte que je peux construire un logement de tant de pieds carrés pour moins cher. Ça, en ce moment, c'est que c'est dur. Humainement, on est limité par notre capacité d'analyse. Tu sais, savoir comment construire pour moins cher, ben c'est, il faut que tu saches combien coûte ta vis, ton clou, ton gyproc, puis que tu aies en tête tous les scénarios possibles de comment construire un bâtiment. Donc souvent, c'est trop complexe. Donc on fait comme on a toujours fait. Mais il existe tellement de matériaux, tellement de procédés, tellement de systèmes d'ancrage puis de colle aujourd'hui que si on était capable d'avoir tout ça en tête, on serait capable de trouver des façons de construire moins cher. Donc moi, pour moi, mon souhait pour nous, c'est que collectivement, on utilise l'intelligence artificielle pour améliorer notre qualité de vie comme citoyen.
Là, tu as parlé de recommandations. Ou une des façons d'intervenir avec les citoyens, c'est de pouvoir leur faire des scénarios. On n'a pas tout à fait touché à ça, mais aussi l'aspect prédiction, de pouvoir anticiper des fluctuations. Tu l'as mentionné plus tôt, Anne. Si on regarde la météo, on peut voir qu'il y a des motifs qui se répètent. Donc, ça, moi, j'avais fait un projet de ça des années. Un petit projet universitaire, mais essentiellement, on analysait le 3-1. Et puis, ce qu'on remarquait, c'est que finalement, il y avait une abondance d'appels quand il y avait une chute de neige. Ben, depuis, il y a un faux neige. Mais à ce moment-là, c'était pertinent de le savoir parce qu'on pouvait dire ben, faut mettre plus de personnes qui vont répondre à l'appel parce qu'on a un achalandage par rapport à ça. Mais ça, c'est tout simple. Ça se fait, ça s'implante facilement. La donnée, elle est là. C'est de la prédiction. Ça, c'est un cas simple. Un cas qui est moins simple, c'est de pouvoir regarder toutes les informations du marché et se dire, OK, ben, où est-ce que je mets mes billes? Pas rien que ça. C'est le fait que tu as appris sur un ensemble de données que tu viens ensuite modifier par ton action. Ben, tu viens polluer ce que le modèle a appris. Fait que finalement, ton apprentissage a servi une fois, mais maintenant que tu l'as utilisé pour prendre action, ben, il faut que tu réentraînes. Donc, moi, je crois pas vraiment à ça, à court terme, du moins, de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sur les marchés, mais dans les compagnies, pouvoir gérer l'espace de plancher, mettre les ressources, acheter les ressources d'avance, anticiper la livraison de certaines commandes, parce qu'on a un gros client qui, lui, c'est au mois d'août, qui fait ses grosses commandes, fait qu'il faut y réserver un coin dans notre usine, fait que il faut gérer cet espace-là. Ça, c'est des contraintes qu'on voit à tous les jours chez Exploré, parce que c'est de faire des recommandations. OK, là, tu as un espace limité, voici ce que tu pourrais faire avec. C'est de gérer des contraintes, donc passer à travers de la linguistique. On a des conventions collectives, on a des horaires à gérer, on veut optimiser, on fait ce qu'on appelle de l'ordonnancement, donc de placer les bonnes ressources. Une ressource, c'est une personne qualifiée comme un chirurgien ou c'est une machine qui fait quelque chose de particulier. Puis bien sûr, puis ça, on s'en est parlé en micro, mais on n'en a pas vraiment parlé, mais la gestion documentaire, de pouvoir recevoir des bons de commandes puis des bons de livraisons, puis juste se dire « Hey, ça correspond, parfait, on passe à la prochaine affaire. » Donc, c'est des choses qui se fait à tous les jours, qui se font par dizaines, centaines, peut-être même milliers. À l'échelle de Laval, je crois que tu disais que c'était par centaines de milliers à chaque année, parce que vous avez des documents qui rentrent puis qui sortent. Donc, de pouvoir avoir cet impact-là, finalement, a un impact mesurable qui est pertinent pour la croissance de la population également. Ça, c'est un des arguments, je pense, que tu avais mentionné. La croissance de Laval va en augmentant, mais on ne veut pas nécessairement que le gouvernement aille dans la même direction. On veut que le gouvernement puisse rester statique. Là, je te prête des intentions. Est-ce que c'est vrai?
Oui, ben en fait, c'est un petit peu ça. Construire des infrastructures coûte de plus en plus cher. Les salaires augmentent rapidement. Mais évidemment, tout ce qu'on construit comme municipalité ou tous les salaires qu'on paye comme municipalité viennent des taxes des gens. Donc, si quand les coûts de construction ont des inflations de 10 %, on ne peut pas hausser les taxes des soins de 10 %. Donc, pour moi, la voie de passage, comment est-ce qu'on peut maintenir les impôts et les taxes à des taux qui sont respectables tout en voulant offrir plus de services à la population, c'est qu'il faut qu'on soit plus efficace. Puis c'est à la base de toutes mes interventions à la ville, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut être plus efficace. Puis c'est là que je pense que l'intelligence artificielle peut jouer son rôle de mille et une façons. Pensons à juste au déneigement. Montréal a vécu cet hiver deux chutes de 30 cm. Beaucoup de plaintes. En fait, comme élu municipal, là, quand tu deviens élu municipal, tu n'aimes plus ça la neige. Tu détestes le maire parce que, on, comme citoyen, ben on est prêt à attendre 24 heures, 48 heures avant que tout soit déneigé, mais après ça, on devient un peu impatient. Puis on reçoit des milliers d'appels à chaque année. Pourquoi ma rue n'est pas encore déneigée? Pourquoi mon trottoir n'est pas encore déneigé? Là, moi, je vais expliquer qu'on pourrait tout déneiger en 24 heures, mais peut-être qu'il faudrait que je double le nombre d'employés. Puis quand il n'y a pas de neige, je fais quoi avec ce nombre d'employés-là qui a été doublé? Je les assois sur un siège à attendre la prochaine. Donc, il y a des raisons logistiques, des fois, qui nous empêchent d'offrir un meilleur service. Par contre, la quantité de neige qui tombe fait en sorte qu'un camion, une déneigeuse, va avancer plus vite ou plus lentement. Le moment où la neige tombe dans la semaine a un impact sur nos opérations parce que des fois, en fait, la souffleuse doit passer du côté de la rue qui a des interdictions de stationnement. Et donc, si elle tombe en début de journée ou en fin de journée ou un week-end, on ne peut pas faire les mêmes parcours de déneigement. Là, excusez, c'est un peu geek, là, mais c'est super complexe. En fait, en ce moment, on n'est pas capable de faire des bons parcours de déneigement parce qu'on doit avoir en tête toutes les contraintes de stationnement de la ville avec aussi la quantité de neige qu'il a reçue parce que ça l'impact le nombre de kilomètres à l'heure que ta machine fait.
Ah, c'est fascinant.
Donc, mais une intelligence artificielle peut assez rapidement faire ça. Et c'est pour ça, à Laval, on a un projet, entre autres, on va faire de l'affichage dynamique. Donc, ça, je pense qu'on est la première ville au Québec. Ça ne sera plus des panneaux d'interdiction de stationnement fixes imprimés sur une planche d'aluminium. Ça va être un panneau numérique. On va pouvoir changer en temps réel comme on veut les interdictions de stationnement. Ça va vous permettre, avec l'intelligence artificielle, on va être capable, d'ici quelques années, de dire, bon, ben c'est 17 cm de neige qu'on a eu. On sait que ça veut dire qu'un camion est capable de faire 3,2 km à l'heure en moyenne. On part le trajet ici, puis ça, c'est le trajet optimal pour ton camion. Donc, avec les mêmes équipements, avec les mêmes personnes, on peut-être avoir un gain de 10, 20, 30 % d'efficacité, donc des rues déneigées plus vite. Sans engager de nouveaux employés, sans changer notre machinerie, mais juste en étant capable de mieux utiliser l'information, puis en étant capable de changer de manière, en temps réel, là, les interdictions de stationnement.
On tombe dans la gestion du changement, de la façon de travailler des employés du gouvernement, mais aussi de comment je stationne ma voiture.
Exact. Fait que là, après ça, t'as des contraintes où est-ce qu'il faut qu'on donne un certain délai pour que les gens puissent expliquer aussi comment, juste expliquer comment les nouveaux panneaux fonctionnent. donc, il y a évidemment plein de défis sur le chemin du changement, mais je pense qu'ultimement, on doit aller dans cette direction-là.
Mais déjà, d'avoir la vision d'aller vers là, tu sais, ça montre à quel point tu comprends les différents jalons, la complexité, à qui tu dois parler, tu sais, pour faire justement l'acceptabilité. Là. Tu sais, moi, je suis allée dans un centre de rénovation, puis ils avaient justement ces panneaux numériques au lieu... Puis parfois, je disais, est-ce que le prix est en train de fluctuer ou pas? Mais c'est moi-même qui est en train de...
Il analyse ton regard, ça a l'air de vraiment aimer le produit, le prix, il monte.
Oui, c'est ça. Comme... Oh mon Dieu, plus je l'aime. OK, là, je le regarde pas. Mais bref, tu sais, je pense qu'il y a cette confiance-là aussi à bâtir avec la population parce que les gens vont vouloir savoir est-ce que je stationne? Et demain matin, la pancarte aura changé.
Oui. Puis c'est là, en ce moment, on déploie les nouveaux panneaux numériques qui ne sont pas encore utilisés, mais on est en train de les installer sur les terrains des gens. Puis c'est sûr qu'on reçoit plein de questions. Là. Les gens sont comme, pourquoi? C'est quoi ce panneau-là? Pourquoi pas la vieille affiche qui coûte moins cher?
Oui,
c'est Donc c'est un grand défi de bien vulgariser, de bien expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est quoi le bénéfice que les soins vont avoir au bout de la ligne.
Puis, tu sais, même juste ton explication sur le nombre de travailleurs, tu sais, si on voulait déneiger rapidement en 24 heures, 48 heures, tu sais, cette explication-là, faut qu'elle devienne transparente aussi pour que la population comprenne à quel point cette charge-là, tu sais, si tu as des employés qui sont là à rien faire, mais que tu dois justement continuer à les payer, mais c'est les citoyens qui vont finir par payer cette facture-là. Mmh. Donc, tu sais, user de leur... qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne pour chacun de ces individus, de ces personnels-là, va venir aider à engranger...
On a deux contraintes. On ne peut pas doubler le nombre d'employés puis on ne peut pas doubler les taxes. C'est donc ça. Là, c'est de voir, elle est où la solution là-dedans?
Oui.
Comment est-ce que je peux améliorer le service avec ces deux contraintes-là en place.
Donc, réussir à le traduire, tu sais, parce que...
Ça passe toi, par l'innovation.
Ben ouais. Oui. Puis, tu sais, il y a quand même des étapes. Hein, lorsque tu intègres des outils numériques ou même l'intelligence artificielle, tu sais, utilise la même métrique, c'est qu'au début, tu explores. Tu sais, souvent, tu explores la technologie, c'est, ça aide souvent avec les geeks qui sont déjà en place, ils ont... puis là, on les reconnaît, là, ceux, les bons geeks, là, c'est ceux qu'ils étaient cernés jusqu'en bas des joues lorsque ChatGPT est sorti parce qu'ils ont essayé de détruire ChatGPT. Donc, moi, je faisais partie de ces geeks-là. Je pense que j'ai pas dormi pendant 3 jours. Je dis, c'est pas vrai qu'il va répondre toutes ces... Donc, j'essayais de challenger un peu...
Trouver ses failles.
Oui, trouver ses failles, puis c'est mon objectif. Donc, tu sais, dans ton exploration, c'est souvent ça. C'est comment tu utilises, comment les gens qui sont prêts à prendre ce risque-là, faire la première pas de curiosité. Après, tu sais, tu commences à expérimenter de façon plus officielle. Tu sais, tu as quand même 7 projets. Mais à travers tes projets, je trouve que tu vas au-delà de juste expérimenter. Tu vas au-delà aussi de formaliser parce que vous semblez avoir des processus mis en place pour ce type de projet-là. Puis dans l'échelle, en fait, il y a optimiser puis il y a transformer. Puis transformer, c'est de créer des nouveaux services ou transformer des nouveaux produits et services, mais dans ton cas, ça va être plus des services pour aider la population générale ou à même créer des valeurs de plus que tu n'aurais pas pu faire sans l'intelligence artificielle. Puis pour moi, les panneaux puis l'optimisation des routes, c'est comme le départ entre l'optimiser et transformer. Tu es en train de vraiment transformer ta ville.
Non, absolument.
Et là, on se rapproche un peu de la fin du temps qu'on a. Donc, je voudrais juste parler des défis que vous avez et qui viennent très prochainement. Donc là, tu le disais, bon, projet de signalisation, par exemple, mais est-ce qu'il y a, au-delà de la gestion du changement des personnes, qui est un défi certainement l'un des plus importants pour que ce soit adopté à grande échelle, qu'est-ce que ce serait d'autre comme défi que vous avez demain dans la ville, hormis la neige qui est actuellement présente?
À Laval ou au Conseil d'innovation?
Oui, même question pour toi, Anne, effectivement.
Moi, je pense que c'est la rapidité avec laquelle les choses changent en ce moment. Je crois que c'est difficile pour tout le monde de suivre la parade, autant sur le plan technique, donc que tout le monde soit capable de se familiariser avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est possible. Mais aussi, c'est que au-delà d'être capable de faire quelque chose techniquement, il faut l'implanter, il faut que les gens se l'approprient. Donc, ça prend un certain temps, puis on est dans une société en ce moment qui évolue plus vite que jamais. Donc, tu sais, là, en ce moment, on implante des trajets de déneigement numériques pour pouvoir utiliser les intelligences artificielles puis optimiser le déneigement. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas dans 3 ans une toute nouvelle technologie puis on va avoir mis 40 millions sur celle-là pour l'implanter? Donc, de pouvoir anticiper vers où les choses évoluent, d'être capable de se familiariser avec ce qui existe puis d'avoir le temps d'implanter les nouveautés, je crois que c'est un défi. Puis moi, je vois au niveau de l'acceptabilité sociale, ce défi-là, on regarde qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe un petit partout au Canada, dans le monde, en Occident, il y a une certaine frustration des gens. Le monde change, puis ça l'inquiète. Puis on voit une certaine, tu sais, la montée du conservatisme, les gens se replient sur eux-mêmes, ils veulent plus d'immigration. Tu sais, j'ai l'impression que le monde change tellement vite que pour certaines personnes, c'est rendu trop en ce moment. Mm-hmm. Et donc, comment est-ce qu'on va être capable de passer à travers ça? J'ai pas la réponse, mais c'est un défi que je constate.
C'est super intéressant. Parce que tu parlais de façon plus géopolitique, parce que l'IA, ça reste quand même une carte géopolitique. T'sais, puis en ce moment, moi, j'ai 2 grandes inquiétudes. C'est que les gens ont perdu la capacité d'être satisfaits parce que l'IA avance tellement vite que tout d'un coup, tu veux le nouvel objet le plus brillant et tu oublies que tu dois faire des choix proportionnels à ce que tu veux donner comme valeur et le risque que tu es prêt à accepter. Puis ça, tu sais, les gens pensent que IA égale robot, puis là, tout d'un coup, ils veulent les robots qui déneigent ou peu importe. Et ça, pour moi, c'est une perte de clarté d'esprit, puis le volet insatisfaisant de voir une technologie constamment évoluer et toi, te retrouver toujours avec un modèle, tu vas toujours te retrouver avec un modèle dans le sentiment désuet, mais qui n'est pas désuet. C'est que quand tu l'implantes bien, tu maximises vraiment les bénéfices. Donc, tu sais, moi, la clarté d'esprit puis la capacité des gens à se satisfaire d'une solution puis de voir jusqu'au bout l'impact positif, ça va être vraiment essentiel. Puis l'autre volet que je trouve un grand défi présentement, puis ça se ressent partout dans le monde. Tu sais, là, je suis au micro, mais tu sais, les gens qui vont le regarder plus aux vidéos, moi, je suis clairement, tu sais, issue d'une famille d'immigrants. Puis tout le volet de l'EDI, donc équité, diversité, inclusion, que les gens prennent un peu par coquetterie. Ils disent que c'est un beau principe, il y a des politiques, puis je pense que les gens se sont laissés distraire aussi par tout le débat sur les toilettes mixtes, etc., mais c'est pas ça l'EDI. Pour s'enlever de cette distraction-là. L'EDI, c'est de réussir à mettre les bonnes personnes autour de la table pour avoir des regards différents, diversifié, intelligent pour créer des résultats qui vraiment peuvent se déposer dans la société parce que les résultats vont être justes, vont faire en sorte que la communauté avance. Donc, ce volet-là, en ce moment, dans le contexte qu'on est en 2025, j'avoue que c'est la première fois que j'ai un petit peu plus peur de la perception de l'EDI. Puis, je pensais que l'intelligence artificielle allait aider l'EDI, puis effectivement, l'a aidé à un certain moment parce que les gens comprenaient vraiment c'est quoi un résultat qui crée un biais. C'est quoi un résultat qui crée des ruptures dans une société? Mais là, tout d'un coup, en 2025, il y a eu tellement de changements politiques que là, j'ai une petite crainte, puis je voudrais qu'on travaille fort pour que ça disparaisse pas, l'importance de l'EDI.
Tu parlais de la difficulté d'être satisfait. Ça va mal finir le balado. Mais c'est... des réflexions personnelles, mais je réfléchis à ça, puis de plus en plus, ça fait juste comme 2 ans que l'intelligence artificielle est vraiment dans la vie de tout le monde, là, avec les nouvelles images, vidéos, tout ça, produit ChatGPT. Puis c'est rendu quand on est sur nos réseaux sociaux, là, presque la moitié des vidéos puis des images, c'est rendu faux.
On peut plus les distinguer.
Puis, mais ben moi, je les distingue parce qu'elles sont tellement plus belles, créatives. Puis ce qui me fait un peu peur, c'est que... je pense que l'intelligence artificielle a cette capacité-là de générer un monde numérique qui est encore plus incroyable. T'sais, toutes les couleurs sont plus belles dans une image en intelligence artificielle. Donc, puis le coût de la vie est tellement de plus en plus cher. Il y a un film sur Netflix que tout le monde finit un peu dans des maisons mobiles avec des cases de réalité virtuelle sur la tête, puis vit dans un monde parallèle. Puis je me dis, c'est-tu même qu'on va finir
parce Ready que... Player One, est-ce que c'est ça?
Lequel?
Ready Player One? Parce que il y a un monde parallèle dans lequel les gens jouent et travaillent.
Exact, oui. Mais tu sais, est-ce que comme la vie physique coûte de plus en plus cher, tu sais, on est rendu avec des appartements de plus en plus petits, puis de l'autre côté, il y a un monde numérique qui est de plus en plus merveilleux, élaboré et sophistiqué. Est-ce qu'on va pas finir à vivre dans des vies juste numérique parce que la vie physique va être rendue un peu trop ennuyante.
Est-ce que tu vas être le premier maire en réalité virtuelle, peut-être?
Non, je vais être rendu le maire récalcitrant qui va dire « Non, moi, dans mon temps, il n'y avait pas
la ça! » La nostalgie, la souffrance, c'est ça.
Nintendo 64, quoi?
Merci beaucoup pour votre participation. Moi, ce que je retiens, l'IA, c'est accessible, c'est là, ça prend déjà sa place. Une des choses qui m'a percuté, Anne, c'est que tu as dit dans ton parcours, tu as rencontré un patron, tu lui as dit « Hey, pourquoi on fait pas ça? » Puis il a dit « OK, fais-le. » Puis là, je vois un Stéphane qui dit « OK, faisons-le. » Puis je trouve ça vraiment excitant. Faut le faire avec vision et peut-être prudence, comme tu l'as mentionné, Stéphane. Moi, l'élément que je retiens, c'est surtout ça. Puis pour terminer, je serais intéressé d'avoir un élément que vous aimeriez que les auditeurs retiennent, Laetitia, Anne, Stéphane, de notre discussion aujourd'hui.
Un seul, c'est difficile. moi, je dirais de ne pas avoir peur du changement et de se positionner aujourd'hui en réfléchissant comment je vais utiliser l'IA demain. Parce que tu l'as dit, vous l'avez dit, ça évolue vite, très vite, trop vite peut-être même. Et ça fait peur. Moi, je le vois dans mon métier quotidiennement. Je l'utilise l'IA et je ne l'utilisais pas il y a 3 ans. Ça bouge très vite. Et ce n'est pas de se dire non, je ne veux pas de l'IA parce que mon métier va changer ou oui, ben, on va implémenter l'IA puis je n'aurai plus mon métier. Aujourd'hui, je dirais aux gens, réfléchissez dans votre quotidien, dans votre travail, qu'est-ce qui est un peu plus long, un petit peu plus pénible, qu'est-ce qu'on peut changer pour être prêt quand ça va changer, parce que ça va changer. Enfin, moi, je retiendrai ça de tout ce qu'on s'est dit.
Ben, moi, je vais y aller parce que j'allais dire un mot pour toi, Stéphane, mais je vais le dire quand même. Je pense que cette discussion-ci, ce que je retiens, c'est beaucoup l'impulsion. C'est la première étincelle qui fait en sorte que, allez, on y va. Puis de se dire de façon très pragmatique, qu'est-ce qui va pas? T'sais, un chalet qui prend 6 ans, de façon pragmatique, ça va pas. Puis au lieu de juste t'asseoir sur ce fait-là, te donner de l'impulsion à d'autres solutions. Donc ça, ce serait vraiment ce que je retiens beaucoup de cette discussion-ci.
J'ai envie de dire, on peut pas arrêter une rivière, mais on peut essayer de la contrôler puis de la dévier. Donc, je pense que ça rejoint les points que vous venez de mentionner. Tu sais, l'intelligence artificielle, je crois qu'elle est là pour rester. C'est une réalité. Ça ne sert à rien d'essayer de l'ignorer ou de dire que non, elle ne fera jamais partie de nos vies. Par contre, il faut s'assurer qu'elle soit utilisée de manière éthique. Il faut s'assurer qu'elle soit utilisée de manière à améliorer notre qualité de vie. Donc, concentrons-nous sur non pas essayer de la refuser, mais de s'assurer qu'elle nous serve vraiment de manière positive.
Et toi, Rémi?
Essentiellement, c'est de prendre action sur les opportunités qui sont réellement là, actuellement. Oui, on peut être emballé, excité par rapport aux prochaines lunettes de réalité virtuelle, puis se dire, le monde de demain, c'est de travailler avec un casque sur la tête. Puis dans certains cas, c'est super excitant que ça soit ça. Je connais des histoires de conducteurs de camions qui travaillent dans le Grand Nord, mais ils sont assis confortablement à Montréal. Mais c'est pas... Il y a des trucs plus pratico-pratiques qui se mettent en place maintenant ou qui ont déjà été mis en place. Puis là, on en a l'exemple à Laval, au Québec. Puis oui, le Québec s'est positionné comme un gros investisseur, mais il y a peu d'adoption. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a encore l'appétit pour adopter ça à grande vitesse. Puis là, on a de l'initiative de la part du conseil qui veut le mettre en place, puis de villes innovantes comme Laval.
Exact. Donc l'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir partagé votre vision puis ce que vous faites au quotidien. C'est très important, très apprécié. Pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur nos différents réseaux et à nous retrouver sur notre site internet explore.ai. C'était Laetitia Constantin et Rémi Dion. Merci Stéphane, merci Anne.
Ce que cet épisode nous rappelle, c'est que l'intelligence artificielle, bien pensée et bien expliquée, peut devenir un formidable outil au service du public. À Laval, Stéphane Boyer mise sur l'IA pour réduire les lourdeurs administratives, motiver les équipes municipales et livrer plus rapidement des services concrets aux résidents. À l'échelle du Québec, Anne Nguyen travaille à bâtir un écosystème d'innovation responsable où la souveraineté numérique, l'inclusion culturelle et l'éducation jouent un rôle central. Tous deux partagent cette conviction, innover, c'est avant tout inclure. Inclure les régions, les cultures, les équipes internes, mais aussi le regard critique des personnes concernées pour que l'IA publique soit éthique, utile et rassembleuse. À bientôt pour un nouvel épisode d'IA Dit.